Alors ce petit texte, quand j'ai commencé à travailler dessus, j'avais l'impression que c'était un texte un peu inconnu de Borès, et chaque fois que j'en ai parlé à des gens de culture latino-américaine, en fait, tous connaissaient ce texte. Il paraît qu'il est d'une très grande célébrité dans la culture latino-américaine. Et donc c'est un petit texte assez important, semble-t-il, dans la circulation culturelle. Moi, je suis persuadé de son importance, vous allez voir. Je pense qu'il résume assez bien ce qu'on peut trouver chez Borès. De la Cédor, le recueil lui-même, Yves Bonnefoy, dans un des articles de Bonnefoy sur Borès, que vous avez en référence biblio dans la première page, c'est dans la vérité des paroles, Yves Bonnefoy considère De la Cédor comme le livre le plus central de Borès. Ce recueil est pourtant un recueil très, en apparence disparate, de prose et de vers, petit texte, de prose et de vers, et c'est pas en français un des recueils qu'on connaît généralement de Borès. Donc, un aspect de ma démonstration consistera à montrer l'extrême intérêt de ce texte et sa représentativité par rapport, disons, à l'écriture en général de Borès, et puis d'autre part, à m'interroger sur sa nature, sur sa généricité. Qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce que c'est un texte, c'est un texte en prose, certes, un récit en prose. La thèse que je défends et que j'essaierai d'expliquer, c'est que c'est véritablement un poème en prose. Et je vais développer un certain nombre d'arguments qui vont m'aider à essayer de démontrer cela. Et je vais le démontrer à partir de la circulation théorique et méthodologique que le schéma du haut de la page 2 permet de cerner. En particulier en faisant très 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 attention au titre du recueil qui englobe ce petit texte, qui n'est qu'un texte parmi d'autres à l'intérieur d'un recueil. Et je tiendrai compte en particulier, bien sûr, quand on prend le péritexte de ce recueil, on a d'abord un avertissement du traducteur, et on l'utilisera de très très près. Ensuite, il y a un petit texte dédicace de Borès, qui est en fait le premier texte, mais qui est encore en péritexte du fait de la dédicace. Petit texte d'une page, un petit peu plus d'une page. Et puis, il y a le texte-titre, qui s'appelle El Hacedor, qui est le premier texte de la série générale. Le nôtre apparaît, doit être le 5e, 6e texte du recueil. Donc je vais tenir compte de façon très très précise de cette entrée dans le recueil liée à la fois à la dédicace par Borès et puis à la nouvelle titre, El Hacedor, qui joue un rôle déterminant, je pense, dans l'explicitation de la construction du sens dans l'ensemble du recueil. Alors, à la première lecture, je pense que vous avez été frappé par quelque chose, par une impression de peut-être de littérarité réduite, ou du moins le texte se déclare comme étant copié, c'est la parenthèse 4b, dans une chronique, c'est-à-dire qu'on a affaire à un texte qui, du point de vue générique, relève d'une catégorie de textes particulières, les textes, les chroniques de la conquête de l'Ouest. Toute la culture de ce qu'on appelait la culture de la frontière. Donc on a affaire à un texte qui se présente comme ayant un hypotexte sous-jacent, venant de quelque part. Alors avec Borès, il faut se méfier, il n'y a pas obligatoirement un texte sous le texte. Ce qu'il peut y avoir dessous, c'est peut-être simplement un genre aussi. Et ce qui est calqué, c'est peut-être pas un texte donné, trouvé dans des recueils. Borès était très curieux de textes de toutes sortes, de culture populaire ou savante, donc il aurait très bien pu trouver un texte de ce genre, mais il peut aussi avoir simplement en tête une catégorie de type culturel, ces chroniques de la frontière et ces espèces de faits divers liés à cette culture de la frontière, la culture des migrants colonisateurs des terres des Indiens, des Amériques. On trouvera des indices de cela dans plusieurs choses. bien sûr, les noms de lieux, les deux seuls noms de lieux que vous avez au tout début, Runin et Tapalké, qui situent le texte quelque part. Il y a une consonance amérindienne avec Tapalké, et puis consonance hispanique avec Runin. Donc là, on a quelque chose qui a un air géographique à la fois assez vague, et puis de localisation malgré tout, dans un certain espace. Alors, ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est le fait que, par le biais de la chronique de la frontière, de ces faits divers de la frontière, exactement, dans le texte espagnol, il y a un mot qu'on ne trouve pas en castillan, c'est le mot qui caractérise l'enlèvement, je suis en train de le chercher, c'est le malone. Le rapt, c'est dans la proposition numéro 2. Chico de Zapalecio, después de un malone. Et le malone, c'est, vous ne trouverez pas dans les dictionnaires d'espagnol standard, c'est un rapt dans la langue, justement, hispanophone de la frontière. C'est-à-dire, c'est un rapt d'Indien. Le malone, il y a un mot pour dire ça, hein, c'est dire que ces rapts faisaient partie de la culture. Et la culture populaire jusqu'à créer un mot dans la langue. Quoi. Et ça, sur ce point, c'est assez intéressant. Donc on a un texte qui possède déjà une caractéristique générique non littéraire. Il relève d'une culture narrative populaire. Et ce qui est intéressant, c'est précisément ce passage de ce fait divers générique ordinaire dans la littérature et dans la plus haute littérature, puisqu'avec Borges, on est dans l'extrême littérature la plus sophistiquée, la plus reconnue comme une des plus grandes littératures de la culture humaine, enfin avec en plus l'énorme culture de Borges. Je vous disais aussi tout à l'heure la façon dont Bonnefoy caractérisait ce recueil. Donc ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette double appartenance, et même du point de vue littéraire, reste encore une caractérisation. Est-ce que ce texte relève de la poésie ou relève simplement de la prose narrative? Donc on a un problème de généricité extrêmement intéressant, et que je mettrai au centre de mon propos. Je passe sur le fait que Borges a travaillé en 33 et 34 dans un journal. Il réécrivait des faits divers, ce qui donne des choses assez fascinante. Il y a un petit texte qu'on n'aura pas le temps de commenter, mais que je vous ai mis dans la dernière page, qui s'appelle La Trama, qui est un texte écrit à partir d'un fait divers, qui se trouve aussi dans le recueil de la Taylor. Ce texte est typique de certains textes qu'écrivait Borges pendant cette période de journalisme dans le journal argentin populaire Critica. Alors, cette particularité du texte, à mon sens, est extrêmement importante. Est-ce que l'hypothèse de la poéticité peut être développée, avancée, à partir de quelles observations? En quelques mots, qui lance les choses. Ce qui frappe dans ce récit de type fait divers, c'est que les lieux sont certes indiqués, mais Runin ou Tapalké, déjà le lieu est incertain, et si vous continuez, vous n'avez pas de nom de personne. Les indications classiques des faits divers se diluent. Le récit à la fin, vous avez vu, tourne court, c'est-à-dire que l'histoire pourrait redémarrer une fois qu'il repart dans son désert. Ce que les parents deviennent après ce départ de leur fils est oublié par l'histoire. Visiblement, le narrateur est intéressé par autre chose. Ça, c'est un aspect extrêmement intéressant, c'est-à-dire que les indications temporelles sont totalement effacés, il reste de faibles indications locales et les identités ont disparu. Donc cet effacement référentiel est extrêmement intéressant parce que le texte à ce moment-là se trouve du point de vue référentiel dans un statut générique décalé par rapport à ce qu'on attend de textes de type faits divers, chroniques. Les chroniques portent sur des faits très particuliers, à telle date, telle chose s'est passée dans telle ville de l'Ouest et était engagée dans le combat. Par exemple, tel individu et tel autre. On a des datations, une recherche de l'exactitude locale et temporelle qu'on ne trouve pas du tout ici. Alors cette distance référentielle par rapport à l'information est un aspect justement du glissement générique de ce texte. C'est l'aspect le plus intéressant, bien sûr. C'est là qu'on entre assurément dans toute autre chose. Est-ce qu'on entre entrer dans autre chose? La question, c'est dans quoi au juste? Alors, je me servirai pour caractériser ce texte et émettre l'hypothèse de sa poéticité. Je me servirai des travaux de Marc Dominici, que je donne aussi en référence. Vous les trouvez page 1 dans les références bibliographiques dites complémentaires. Pour une approche, c'est un des textes de Dominici, pour une approche cognitive des genres. Et Dominici a une hypothèse intéressante sur la poésie autour de la théorie qu'il appelle de l'évocation. Selon lui, l'évocation met en place un type de relation au monde qui va permettre de caractériser la poésie. C'est-à-dire que la relation au réel n'est pas, je le cite, de l'ordre du descriptif, où il s'agit de provoquer chez le récepteur la formation d'une représentation mentale épisodique, mais de l'évocatif, comme le mot simple, l'adage, le proverbe et l'énoncé poétique, qui suscite l'émergence d'une représentation prototypique déjà disponible. La particularité de la poésie, pour reprendre, c'est un aspect de la thèse de Dominici qui est extrêmement intéressant. Il rapproche la poésie de l'adage, du proverbe, de structures de ce type, qui ont la particularité de façon très très générale, générique, de susciter une représentation générale, abstraite, et non pas une représentation descriptive épisodique. Alors cette idée d'une évocation me paraît extrêmement intéressante. Lisant Bonnefoy de très près, je trouve une confirmation de la thèse de Dominici en ces termes. Bonnefoy dit, toute phrase dans l'article cité en référence, hein, toute phrase de Borès s'appuie pour dire son sens sur un emploi des choses et des personnes qui en abolit l'être propre. C'est, me semble-t-il, très clair. Toute phrase s'appuie pour dire son sens sur un emploi des choses et des personnes qui en abolit l'être propre. Donc qui en dilue justement la référentialité singulière, épisodique au sens singulière. Et du coup, ce captif est effectivement pas un être propre, un singulier du monde, mais bien sûr beaucoup plus un être générique, prototypique, qui ferait partie d'une mémoire. Je continue, toujours commentaire de Bonnefoy à propos de la fiction chez Borès. La fiction n'imite pas la richesse de l'existence, le bâtissant de figures que schématiques dans l'espace étroit de ses apologues. Cette idée de figure schématique dans l'espace étroit de ses apologues est, à mon avis, une définition qui correspond assez bien à la théorie de l'évocation qui définirait la poéticité de ce texte. Néanmoins, on a les définitions qu'on veut de la poésie, ça ne nous fait pas beaucoup avancer, et ce que je vais essayer, c'est d'étayer cette proposition de caractérisation générique du texte par un travail très précis sur le péritexte et le titre du recueil de Borges, en espagnol, El Hacedor. Et c'est en réfléchissant à la traduction de ce titre, à mon avis, qu'on va trouver une piste qui va venir confirmer ce que je viens de dire. Alors, très honnêtement, je vous donne dans un premier temps la réflexion de Roger Caillois sur sa traduction dans l'avertissement. Il commence très bien et ça finit mal. Il commence très bien. Je le lis. C'est la référence notée 1, page 3, référentiel 1, la suite des citations. Donc, le titre du recueil, El Hacedor, dit Caillois, est tiré du verbe faire, hacer en espagnol, comme le grec poietes, poète, du verbe correspondant, poien, faire. Alors, jusque-là, c'est excellent, effectivement, c'est tout à fait ça. La traduction correcte aurait donc été faiseur, si le mot n'avait pas pris en français divers sens, dont aucun ne convient en l'occurrence, fabricant, fabricateur, artisan, ouvrier n'était pas moins inopportun. Je me suis donc résigné à traduire par auteur. Les anglophones ne se sont pas cassés la tête, la traduction anglaise c'est maker, donc, sans problème. Bon. Donc ils traduisent vraiment avec cette idée de celui qui fait, quoi. Alors, la grosse question, c'est est-ce qu'on n'a pas une autre solution, quoi, du point de vue linguistique, et ça m'aide à réfléchir sur la théorie de la langue dont j'ai besoin pour faire de l'analyse de discours. Qu'est-ce que c'est que cette langue de Borges? Il faut se méfier avec Borges. C'est un espagnol, il y a une interlangue possible, et en particulier chez Borges, et ça va être confirmé, vous allez le voir par des citations des premiers textes du recueil, l'interlangue est grec-espagnol. Il faut se méfier, le latin est là, le grec est là, sous-jacent à cette langue. Et c'est-à-dire que le début de la proposition de Caillois est fondamental. C'est-à-dire que la langue espagnole fonctionne exactement sur la même dérivation que le grec. Le verbe faire donne poète. Et en espagnol, c'était tout à fait possible. On pourrait traduire le titre que je serais tenté de donner, c'est le poète, au sens de simplement, et la fait dans celui. C'est le poète, celui qui fait poïenne au sens de cette interlangue gréco-hispanique. Mais pour accepter ce bilinguisme dans la langue, il faut une position ferme par rapport à l'idée de la langue. Et je crois que Caillois a une vision beaucoup trop monolinguistique, c'est-à-dire il traduit, il ne peut pas imaginer que la langue est traversée par une autre langue. Et que cet espagnol de Borges, c'est aussi du grec. Et dans ce cas, la traduction « le poète » est tout à fait possible. Alors, néanmoins, vous pouvez contester cette proposition, mais le titre ne peut pas être isolé du texte, de ce qui le suit. Et si vous regardez de près ce qui suit dans les phrases de Borges lui-même, dans le recueil, vous allez voir que cette interprétation et cette proposition de traduction étaient tout à fait acceptables. Je prends, je vous ai dit, la nouvelle titre « El Hacedor », troisième texte dans l'ordre, mais le premier vrai texte, disons, dans la progression péritextuelle vers le texte. C'est la nouvelle qui donne son nom au recueil, donc c'est sûrement la plus importante. Regardez. « En cette nuit de ses yeux mortels, on a un personnage, en troisième personne, bien sûr, qui est en train de devenir aveugle, c'est-à-dire que la relation avec Borges est systématique, mais bon, supposons que vous ne savez pas ça, ce n'est pas un problème. Et on n'a pas besoin de rattacher ça à Borges pour la suite de la démonstration. En cette nuit de ses yeux mortels où il descendait maintenant, il attendait aussi l'amour et le danger, Arès et Aphrodite, parce qu'il devinait déjà, parce que déjà l'environnait, une rumeur de gloire et d'hexamètre. Alors Caillois est un petit rigolo parce qu'une rumeur de gloire et d'hexamètre a sauté dans le texte de Caillois, la traduction française. Ça faut le faire hein, quand même. La rumeur de gloire et d'hexamètre qui disparaît dans la traduction, on n'est plus dans la faute de traduction, là on est dans la grave, grave erreur, dans l'impardonnable. Bref, une rumeur d'hommes qui défendent un temple que les dieux ne sauveront pas et de vaisseaux noirs qui cherchent par les mers une île aimée. Une rumeur d'Odyssée, d'Iliade, que son destin était de chanter et de faire résonner dans la conque de la mémoire humaine. Nous savons ces choses, mais pas celles qu'il ressentit en descendant vers l'ombre dernière. Bon, il y a plein de choses, là j'ai compris la fin, nous savons ces choses, mais pas ce qu'il ressentit, ça vous rappelle vaguement la fin de notre texte. Hein. Moi je voudrais savoir, bon, donc on va retrouver ça au passage, mais le reste, ces rumeurs d'Odyssée, d'Iliade, de gloire et d'hexamètre, Arès et Aphrodite, vous mettent quand même très clairement sur une piste gréco-hispanique qui ne pose aucun problème. On a visiblement là un texte qui s'inscrit dans une histoire de la littérature et dans une intertextualité. C'est très intéressant, cette idée des rumeurs. Donc là, on a l'impression que la rumeur, l'intertextualité, je crois que vous avez parlé d'intertextualité dans la première séance, donc cet intertexte sous-jacent... Ici, qui serait l'Iliade et l'Odyssée, et aussi, il y a d'autres rumeurs intertextuelles qui président à l'œuvre de Borges. Regardez la citation suivante, notée 3, un tout petit peu plus loin. « Dans les marchés populeux ou au pied d'une montagne, à la cime incertaine, où il y avait peut-être des satyres, il avait écouté des histoires compliquées, qu'il reçut comme il recevait la réalité, sans chercher à savoir si elles étaient vraies ou fausses. » C'est intéressant, c'est que la position du poète, de celui qui fait avec les... C'est celui qui sert de caisse de résonance et qui reçoit les histoires et qui les redonne. Entre parenthèses, notre texte fonctionne exactement comme ça. Il se présente comme une histoire reçue une rumeur, une histoire de la frontière, un texte racontant ces raptes d'enfants d'émigrants, et cette rumeur d'histoire est reçue et redonnée, et le texte dit, redonnée, je rajoute rien à ce que j'ignore, dit-il, un peu fictivement, on va voir, mais néanmoins, de façon très claire. Donc cette façon de jouer ce rôle, sur les montagnes, vous avez vu qu'à la cime incertaine, il y a peut-être des satires, donc on est bien encore dans un univers à intertextualité très très claire. Bref, c'est là-dessus que je fonde ma certitude de devoir ainsi traduire clairement le titre par le poète, et dès lors d'avoir un regard sur le texte que nous allons travailler, qui est un regard aussi fin que celui qu'on peut avoir sur des textes de poésie. Ce n'est pas du tout le cas de Caillois, citation 4, avertissement de Caillois. Dans le texte, il y a des poèmes, des textes en vers, et puis il y a des textes en prose. Et Caillois dit ceci. Eduardo Ronquieras, un remerciement, a bien voulu faire pour moi une première traduction, comme la maman de Baudelaire faisait pour Baudelaire, à son fils Baudelaire. Il a bien voulu faire pour moi une première traduction littérale d'un certain nombre de textes du présent ouvrage. Alors, donc, c'est peut-être lui qui a oublié les rumeurs de gloire et d'hexamètre. Au passage, c'est sûrement Ronquieras. Cette version m'a évité bien des recherches et très probablement quelques méprises. Je lui exprime ici ma vive reconnaissance. Pour ceux de ces textes qui étaient en prose, et ici dans la liste, le captif, la traduction qui suit autant est plus la sienne que la mienne. Alors, visiblement, effectivement, on ne s'est pas beaucoup cassé la tête sur les textes en prose. Les textes en vers, Caillois fait beaucoup plus attention, mais les textes en prose de Borès, il laisse faire la traduction littérale, et puis, visiblement, il ne s'intéresse pas aux détails. Il ne les prend pas au sérieux, il ne prend pas la langue dans le détail de sa rythmicité au sérieux, et dès lors, c'est la poéticité de ces proses est affaiblie de façon extrêmement grave. Donc ce propos de traducteur est, à mon avis, un propos grave, c'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui travaille sans considérer la traduction comme étant une mise en relation de la langue et de la logique d'un recueil, d'un texte. La façon dont je vous propose la traduction du titre est liée à ce qu'on trouve dans les nouvelles qui suivent, c'est dans cette dynamique-là qu'on peut réfléchir à la traduction. On a quelque chose qui est systémique en quelque sorte. Alors si vous voulez avoir une vague idée des problèmes de traduction sans trop connaître l'espagnol, c'est très facile. Le début du texte, je vous l'ai donné en espagnol, en particulier la première phrase. En runin, un tapaqué refieren la historia. Traduction caillois, ça donne on raconte l'histoire à runin ou un tapaqué. On est à la limite du français là. On raconte l'histoire à runin ou un tapaqué. Le définit ici et en français d'un usage absolument ahurissant, alors que c'est pas du tout le problème. On pourrait dire tant mieux, ça fait de style un flottement du sens, un flottement référentiel, mais en espagnol c'est pas du tout un problème. C'est que le défini en espagnol, la historia, il a une fonction cataphorique très très claire, il renvoie à ce qui va venir, ce qui fait que c'est comme ça qu'il faut le traduire. Généralement on traduit en français plutôt par des démonstratifs, on raconte cette histoire ou l'histoire suivante. Donc on pointe avec l'article en espagnol. On pointe de façon très claire, c'est un déictique, ou bien un cataphorique, carrément l'histoire suivante. Donc là, on a un problème de traduction, c'est absolument inouï, quoi. Traduire ça à l'histoire, c'est de la traduction littérale. Peut-être Ronquieras qui a fait ça, mais Caillois ne part pas assez dessus, parce que c'est pas du vers, c'est ça mon hypothèse. Si vous regardez la suite, un enfant disparaît après un raid d'Indien, dit Caillois. On dit qu'il l'avait enlevé, ses parents l'ont cherché inutilement. Des années plus tard, un soldat qui venait de l'intérieur leur parla d'un Indien. Le passé simple n'arrive dans le texte traduit que dans la phrase 3b, enfin c'est dans la ponctuation que fait Caillois, ça serait bien la cinquième phrase. Si vous regardez le texte en espagnol, desapareció, c'est un passé simple dès le tout début, buscaron, c'est un passé simple. Cedijo, c'est du passé simple. Le passé simple est là d'entrée. Pourquoi avoir abandonné le passé simple, alors que le système de l'espagnol permet ces jeux aussi? Là, il y a un problème de traduction qui me surprend beaucoup. Je passe sur le podiaster, qui va être traduit par le conditionnel, ça peut se discuter peut-être. Mais l'autre fait sur lequel je veux attirer votre attention, c'est l'utilisation de la ponctuation. Chez Caillois, le point, les phrases de Borges, le fragment cité comporte trois phrases, qui comportent un point-virgule au milieu qui fait que la phrase rebondit. et d'une façon un peu surprenante. D'ailleurs, à la lecture tout à l'heure, j'ai eu du mal à articuler le fragment avec des années plus tard. Borès avant, des années plus tard, mais un point virgule et pas un point, en dépit du marqueur fort de démarrage du récit. C'est un indicateur narratif très, très puissant qui peut expliquer pourquoi Caillois met un point juste avant. Mais chez Borès, il n'y a pas de point, là. Donc, il y a quelque chose qui est assez gênant, c'est-à-dire qu'on va modifier la rythmicité interne de cette langue, de l'espagnol de Borès. Et c'est caricatural pour tout le reste du texte. Dès qu'il y a un « i » en espagnol, les Français ne supportent pas, ils mettent des points. Parce que la phrase repart avec le « i », le « e » espagnol, qui relance la phrase. La phrase a une rythmicité interne grâce à ces « i », « i », « i » qui peuvent la faire rebondir, et qui donne un volume surprenant à ces périodes rythmiques. Si vous mettez des points chaque fois qu'il y a un « e », en supprimant le « e », vous cassez le rythme de la phrase. Et à mon avis, ce que fait Caillois, c'est justement parce que génériquement, il ne prend pas le texte comme un poème. Si ce n'est pas un poème, c'est de la prose, ça se traduit un peu librement, et on n'envisage pas une littérarité, une poéticité, une rythmicité spécifique de cette prose. Et c'est, à mon sens, c'est aussi grave que les passés simples mal traduits, et d'autres erreurs multiples que je n'énumérerai pas sadiquement.